السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يتقبل إن شاء الله نكون سعيدة بشدارة بالنسبة هي في كتاب الولاية كما في دور الجمعة أفضل عشر ونسيب دور الجمعة وقومة الجمعة Après, d'abord, il y a eu des questionnaires et chacun lui a montré un petit peu avec des questions et chacun a répondu par groupe. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que là, on va faire un travail de conférence. Et ensuite, il y aura une conférence par rapport au questionnaire. Donc, pendant la conférence, il y aura les réponses du questionnaire. Donc, chacun, vous êtes tous invités à participer. Ça va par rapport aux choses. Donc, il ne sera pas, on essaie de patienter. Ils sont quand même plus simples. معاد إن شاء الله pour la lecture du Coran. معاد.
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
Et on essaie de patienter un peu. Là, le prochain se lève. S'il viendrait là maintenant, il serait content. Il serait content de ramener les pertes. Donc on essaie de se concentrer au maximum et on essaie de faire attention au Christ. Et après, Inch'Allah, il y aura un petit goûter, une petite poisson à l'Ikram. Ça sera normalement dans une heure, Inch'Allah, une heure de conférence, et après, Inch'Allah, il y aura un goûter. Barakallahu fikoum.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc que demander de plus dans cette assise? On vient d'entendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la dernière parole révélée. Et on s'apprête à parler de la meilleure des créatures qui est venue à nous apporter ce message qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé par l'intermédiaire de Jibril. Donc on a entendu la meilleure parole, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on s'apprête à parler de la meilleure créature. Donc personnellement, je ne vois pas où est-ce qu'on pourrait aller si ce n'est rester ici et partager ce moment d'échange sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les frères, jazahumullahu khayra, ils ont organisé un échange après salat al-dhuhr avec les personnes donc qui ont bien voulu rester sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir, aujourd'hui on va traiter la période pré-islamique, c'est-à-dire, quand on parle de la période pré-islamique, c'est tout ce qui concerne l'avant-révélation. L'avant-révélation. Donc à cet effet, après Salat al-Dhuhr, il y a des groupes qui se sont constitués. Et chacun des membres de ce groupe avait entre les mains un questionnaire. D'ailleurs, je vois le frère Mahdi qui distribue les questionnaires à ceux qui n'en ont pas. Donc ceux qui n'ont pas de questionnaire, vous pouvez demander au frère Mahdi et Fouad de vous distribuer un questionnaire. Donc chacun des membres du groupe avait un questionnaire. Et les propos qui ont été tenus à l'intérieur de ces cercles concernaient donc le questionnaire sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le but de cette intervention, ça ne va pas être un monologue, dans le sens où je ne vais pas parler pendant une heure, parce que c'est, on va dire, c'est rébarbatif, c'est ennuyant d'entendre une personne parler comme ça pendant une heure. Donc, je voyais tout à l'heure les différents groupes s'activer pour réfléchir aux réponses aux questions. Donc le but de cette intervention, c'est une conférence interactive, dans le sens où on va reprendre chacune des questions qui figuraient dans le questionnaire. Et si possible, j'appellerai à chaque fois une ou deux personnes, peut-être plus, pour donner une ébauche de réponse. Et à partir de cette ébauche de réponse, je vais rajouter quelques éléments qui vont s'articuler donc autour de la question. Donc tout d'abord, la première chose qu'on doit savoir, pourquoi est-ce qu'on est réunis aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on est réunis aujourd'hui ? Pour le savoir, il faut revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le recueil de Muslim, dans le sahih de Muslim. Ce hadith, il est rapporté par un sahabi qui s'appelle Abu Qatada al-Ansari. Abu Qatada al-Ansari. Il rapporte ce hadith. Il a dit, nous interrogeâmes le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de son jeûne le lundi. lui ont demandé, « Ya Rasulallah, pourquoi jeûnes-tu le lundi ?» Bien sûr, il y a plusieurs raisons. Mais parmi les raisons que le prophète a évoquées, il a dit, « Je jeûne le lundi car c'est le jour dans lequel je suis né et c'est le jour dans lequel j'ai reçu la révélation. » Donc en fait, en résumé, son jeûne, c'était quoi ? Son jeûne, c'était une reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'une part de lui avoir donné la vie, et d'autre part de lui avoir accordé la révélation, qui est une guidée pour notre communauté. Donc nous, notre assise, puisque toute assise se doit d'orienter son intention, c'est-à-dire qu'on doit avoir une intention quand on s'assoit ici. Notre intention, en nous asseyant ici, et en échangeant sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi ? C'est choquant. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de faire partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de laquelle Allah a fait l'éloge dans son livre. Et il l'a élevé au-dessus de toutes les autres communautés. Et yawm al-qiyama, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle sera témoin contre toutes les autres communautés. Soit en leur faveur, soit en leur défaveur. Comme il est dit, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا. C'est-à-dire, certains exégètes ont expliqué ce verset en disant que Yom al-Qiyama, toutes les communautés seront réunies. Au milieu de toutes ces communautés se trouvera la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que dans le livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète, Allah nous parle des prophètes qui sont venus avant lui. Et de ce fait, nous avons pris connaissance des communautés qui ont suivi leurs prophètes et des communautés qui ont préféré dévier du message qui leur a été révélé. Donc ça, c'était le premier point. C'est-à-dire, on est réunis maintenant pour exprimer notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir envoyé son prophète et de nous avoir permis de faire partie de sa communauté. Le second point, c'est comment est-ce que je vais prendre connaissance de la vie du prophète. C'est-à-dire, quelle approche je vais adopter quand je vais lire la vie du prophète. Est-ce que je dois la lire comme une simple histoire, comme je lirais l'histoire d'un roi ou l'histoire d'un empereur? Ou est-ce qu'il y a d'autres dispositions spirituelles à prendre? Eh bien, il y a d'autres dispositions spirituelles à prendre. Et pourquoi prendre d'autres dispositions spirituelles? Tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour guider l'humanité et à cet effet il est un modèle pour nous. Et qui dit modèle dit que l'on doit suivre ce modèle, c'est-à-dire faire ce qu'il nous a ordonné de faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il y a pour vous dans l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait pour ceux qui aspirent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne cessent de l'invoquer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment, comme on dit, concentré tous les aspects humanitaires et sociaux qu'on peut rencontrer chez un individu, mais également tous les aspects que l'on peut rencontrer chez une personne au service de sa société. Donc on a la vie du prophète en tant qu'individu indépendant et la vie du prophète en tant que personne au service de sa société. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne vivait pas reclus. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne vivait pas reclus. On verra, il faisait des retraites spirituelles, mais ce n'est pas la même chose. Qui dit retraite spirituelle ne veut pas dire s'isoler du monde. Celui qui pense que s'isoler du monde va permettre d'accroître sa foi, il n'a pas compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait des pauses pour s'isoler, c'était pour méditer et pour renouveler sa foi et renouveler son pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sinon, toute sa vie, il n'a cessé d'œuvrer pour la réussite de sa communauté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un apôtre qui savait comment parler à sa communauté, c'est-à-dire avec sagesse. C'était également un époux exemplaire. Un époux exemplaire et un père affectueux qui était conscient de ses droits, mais également de ses devoirs envers son épouse. Parce que généralement, quand on entend des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Si une personne si on devait se prosterner devant une personne, il aurait été ordonné à la femme qu'elle se prosterne devant son mari. Donc nous les hommes, quand on entend ce hadith-là, généralement on gonfle, on dit « Ouais, la femme elle me doit soumission. » Ouais, effectivement, mais toi tu dois tenir ton rôle de mari. Et pour cela, tu as des devoirs envers ta femme. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de ces choses-là à ses sahaba, il en parlait de cette manière-là. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'adressait pas à n'importe qui. Allah subhanahu wa ta'ala, les sahaba dans le Coran, il les appelait rijal. Rijalun. C'est-à-dire que quand il leur parlait, il savait qu'il savait faire la part des choses, ses compagnons. C'est-à-dire ne pas abuser dans les commandements qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait. Donc le prophète, on a dit, c'était un époux exemplaire, un père affectueux. C'était aussi un chef militaire intelligent. C'était un fin politicien et surtout honnête. D'accord ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, ce sera d'autant plus visible dans la deuxième partie de sa vie, c'est-à-dire après la révélation, quand il s'agissait d'aller discuter avec les autres grandes puissances qui entouraient la péninsule arabique, il savait, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comment discuter. Il avait ce qu'on appelle la diplomatie. Et il n'était pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas malhonnête. Il était honnête et sincère dans ses démarches. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il avait une lourde tâche, à savoir transmettre le dernier message, c'est-à-dire qu'après le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a plus jusqu'à Yom al-Qiyamah. Malgré ce lourd fardeau, il savait se détendre, plaisanter avec ses sahaba, avec ses compagnons. Il savait rigoler, il savait plaisanter, même avec ses épouses, comme on le verra. Donc, on a distribué un questionnaire concernant la période pré-islamique, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'avant-révélation. Donc là, on ne va pas parler des batailles et tout ça. Tout ça, c'est après. Là, on va parler de tout ce qui concerne l'avant-révélation. Donc on avait commencé par une première question. Donc comme je vous ai dit, il est possible que j'appelle une ou deux personnes pour venir donner un premier début de réponse. Et après, Inch'Allah, on articulera l'intervention en fonction des réponses qui seront données. Donc la première question, je vais la reprendre, qui a été donnée. C'était combien de prophètes sont mentionnés dans le Coran ? Combien de prophètes sont mentionnés dans le Coran ? Naam. Donc j'ai entendu le chiffre de... Naam. De 25. Exact. 25 prophètes sont mentionnés dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa laqad arsalna rusulan min qablik, minhum man qasasna alayk, wa minhum man lam naqsus alayk. » C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à son prophète en lui disant, « Nous avons envoyé des prophètes avant toi. Nous t'avons parlé de certains prophètes, et par contre, il y a d'autres prophètes à propos desquels nous ne t'avons rien dit. » Donc 25 prophètes sont effectivement mentionnés dans le Coran, mais il y a plus de prophètes que cela. Certains évoquent le nombre de 124 000, d'autres 8 000. Toujours est-il, on retiendra plusieurs milliers de prophètes. C'est-à-dire que chaque cité qui était égarée, chaque peuple qui était égaré, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un avertisseur. Et de tous ces envoyés-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous en a évoqué dans sa dernière révélation, nous en a évoqué 25. Et tous ces prophètes sont venus avec un seul message. Parce que des fois, on peut entendre que les messages étaient différents d'un prophète à l'autre. Non, le message, il a été toujours un, unique. C'était quoi le message ? Au peuple, adorer Allah. C'est-à-dire chaque prophète, quand il était envoyé à son peuple, c'était pour rappeler que l'adoration ne devait se faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui différenciait entre un prophète et un autre, c'était les préceptes religieux. Comme par exemple le prophète Issa, qui est venu assouplir la loi avec laquelle est venu Moussa. Le dogme, la croyance était la même, mais les préceptes religieux ont été un peu plus assoupis. La deuxième question, et là j'appellerai un jeune pour voir si la réponse a été trouvée. Citer les cinq prophètes qui ont reçu l'appellation d'Ulul Azm. Et pourquoi les a-t-on appelés ainsi? Donc il y a 5 prophètes parmi les 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Il y a 5 prophètes qui ont reçu l'appellation de Ulul Azm. L'expression Ulul Azm, si on voudrait en donner une traduction, ça signifie les doués de détermination. Et on expliquera pourquoi, on apportera les versets qui expliquent pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a sortis du lot, ces 5 prophètes-là. Je vois une main qui se lève, Arfouad.
Les 5 prophètes, c'est Mohamed,
Isa, Moussa, Nuh et Ibrahim. Ahsant. Donc, Ulul Azm, effectivement, il vient de les citer, sans faute. Donc, dans l'ordre chronologique, Nuh, alayhi salam, Nuh, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, Moussa, alayhi salam, Isa, alayhi salam, et Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces 5 prophètes-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné l'appellation de Ulul Azm en disant à son prophète à la fin de Surat Al-Ahqaf, Fasbir kama sabara Ulul Azm min ar-Rusul. Il dit, oh Mohamed, patiente et endure comme ont patienté les 5 doués de détermination, c'est-à-dire Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohamed alayhim salatu wa salam. Maintenant, pourquoi les a-t-il appelés comme ça? Naam, exactement. Parce que ces 5 prophètes qu'on vient de citer, ce sont les 5 prophètes qui ont été le plus éprouvés. Et on va donner quelques exemples et vous allez comprendre pourquoi. On va d'abord commencer par Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, il a une sourate qui lui est consacrée. Qu'est-ce qu'il a fait Nuh?
قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
Donc Nuh عليه السلام, dans le passage que je viens de citer, il a utilisé tous les moyens possibles et imaginables pour guider son peuple. Il les appréciait en public, il les appréciait discrètement. Rien n'y faisait. Quand il venait les rappeler à Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer Allah, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait les doigts dans les oreilles, ou alors il se cachait la tête, il se cachait les yeux. Et il se gonflait d'orgueil, il s'obstinait dans leur mécréance et il partait. Donc regardez l'effort que Nuh a fait pour son peuple. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Pour savoir ce qu'ils lui ont répondu, il faut remonter dans Sourate Shu'ara.
قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين.
C'est grave ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, ya Nuh, si tu n'arrêtes pas ta prédication, tu feras partie des lapidés, on va te lapider. C'est quoi lapider? On va te jeter des pierres. Donc ils l'ont menacé. Simplement jeter des pierres. Et ça, vous le verrez dans la deuxième partie. C'est exactement ce qu'on a fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que quand il est parti prêcher à Taïf, vous croyez qu'ils l'ont accueilli avec des roses et des champs? Non, ils l'ont accueilli avec des pierres. Ils l'ont accueilli avec des pierres à tel point que ses sandales collées à ses pieds du fait que le sang ruisselait. On va revenir à Nuh. Donc Nuh, 950 ans de prédication. Il a atteint, comme on dit, le point de non-retour. C'est tout. Il est arrivé à un point, il a dit وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرَ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Tout simplement, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'exterminer ce peuple qui ne veut pas écouter. Regardez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quelle réponse il a eue après l'accueil violent qu'on lui a opposé quand il est arrivé à Taïf. Donc, quand il a reçu toutes ces pierres, il était fatigué, il était épuisé. Il est parti se reposer, s'asseoir. L'ange Mikaïl est venu le voir. Il lui a dit, Ya Rasulallah, un ordre de ta part, et j'écrase cette cité entre deux montagnes. Un ordre, parce que l'ange Mikaïl, c'est celui qui est responsable de tous les éléments, c'est lui qui gère les éléments. Il a dit, un seul ordre de ta part, et j'écrase cette cité entre deux montagnes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, Il a dit, je n'ai pas été envoyé pour maudire. J'ai été envoyé comme miséricorde. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et dans un autre verset, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui tamponne le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. C'est-à-dire, assurément, tu es doté de la plus éminente moralité. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. طيب, maintenant, on va voir Moussa alayhi salam. Lui aussi, Moussa, il fait partie de Ulul Azm. Moussa, il fait partie de Ulul Azm. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le peuple de Pharaon ? وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. Donc les dignitaires de Pharaon, quand ils ont vu Moussa en train de prêcher et en train de déstabiliser le royaume de Pharaon, ils ont dit, ya Pharaon, est-ce que tu laisses Moussa et son peuple semer la corruption sur notre terre et te délaisser tes dieux ? Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon ? قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, قال سنقتل أبناءهم, nous allons tuer leurs fils, épargner leurs femmes, et nous les soumettrons, وإنا فوقهم قاهرون. C'est-à-dire que on va tellement les persécuter jusqu'à ce qu'ils se soumettent à nous. Moussa, pareil, il a atteint le point de non-retour. Moussa, avec son frère Haroun, ils ont atteint le point de non-retour, pareil que nous. Et Moussa, il a fait une invocation contre Pharaon. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّ عَنْ سَبِيلِكَ. Après, c'est là qu'elle vient la dua. رَبَّنَا طَمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا. C'est-à-dire que Moussa, il a dit, ya Allah, tu as accordé à Pharaon et ses dignitaires des parures et des biens. Cependant, malgré ces biens, ils ont dévié de ton chemin. Ensuite, il a invoqué Rabbana tmis ala amwalihim, supprime, efface leurs richesses. Washdud ala qulubihim, endurcis leur cœur. Fala yuminu hatta yaraw al'adab al'alim. Et fait qu'ils ne croient qu'après avoir vu le châtiment douloureux. Donc Moussa alayhi salam a invoqué contre son peuple. Maintenant, on va voir l'épreuve que Ibrahim a subie. Donc Ibrahim, lui, pareil, il était parmi un peuple d'idolâtres. Et on connaît tous l'histoire, il a détruit les idoles. Finalement, ils l'ont attrapé. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. Attrapez Ibrahim, brûlez-le. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez agir réellement, in kuntum fa'ilin, prenez Ibrahim et brûlez-le, et ainsi vous aurez secouru vos idoles, vos dieux. Cependant, on connaît l'histoire, Allah subhanahu wa ta'ala lui a porté assistance. Donc on voit bien, à travers ces versets qu'on vient d'évoquer, ces quelques exemples, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ces cinq prophètes Ulul Azm. Parce qu'ils ont essuyé un refus cinglant, et j'allais dire aussi sanglant et violent, de la part de leur peuple. Mais malgré ça, ils n'ont cessé de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était concernant la question 2, les Ulul Azm, et pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça. La troisième question, parmi les prophètes cités dans le Coran, combien sont arabes ? Parmi les prophètes cités dans le Coran, donc vous voyez que petit à petit le questionnaire a été fait pour se rapprocher progressivement de la personnalité du prophète et s'approcher progressivement du moment de la révélation. Donc, combien de prophètes arabes ?
Un
prophète arabe, qui est d'accord ? Qui n'est pas d'accord ?